Chapitre 4. Les invités de Ruy. Robert d'Artois, pendant la saison chaude et quand le service du royaume ou les soucis de son procès lui en laissent le temps, aime à passer les fins de semaine à Reuilly, dans un château qui appartient à sa femme par héritage valois. Les prairies et les forêts entretiennent une agréable fraîcheur autour de cette demeure. Robert garde là son oisellerie de chasse. La maisonnée est nombreuse car beaucoup de jeunes nobles, avant d'obtenir la chevalerie, se placent chez Robert pour y être écuyer, sommelier ou valet de sa chambre. Qui ne parvient pas à entrer dans la maison du roi s'efforce d'être attaché à celle du comte d'Artois, se fait recommander par des parents influents et, une fois accepté, cherche à se distinguer par son zèle. Tenir la bride du cheval de Monseigneur, lui tendre le gant de cuir sur lequel se posera son faucon muscadin, apporter son couvert à table, incliner sur ses puissantes mains l'aiguière à eau, c'est s'avancer un peu dans la hiérarchie de l'État. Venir secouer son oreiller au matin pour l'éveiller, c'est presque secouer l'oreiller du bon Dieu, puisque Monseigneur, chacun s'accorde à le dire, fait à la cour la pluie et le beau temps. Ce samedi du début de septembre, il a invité à Reuilly quelques seigneurs de ses amis, dont le sire de Brécy, le chevalier de Hengest, et l'archidiacre d'Avranches, et même le vieux comte de Bouville, à demi-aveugle, qu'il a fait prendre en litière. Pour ceux qui voulaient se lever matin, il a offert une petite chasse au vol. À présent, ses hôtes sont réunis dans la salle de justice, où lui-même, en vêtements de campagne, se tient familièrement assis dans son grand faux-desteuil. La comtesse de Beaumont, son épouse, est présente, et aussi le notaire Tesson qui a posé sur une table son écritoire et ses plumes.
« Mais bon sire, mes amis, dit-il, j'ai requis votre compagnie afin que vous me portiez conseil. »
Les gens sont toujours flattés qu'on requiert leur avis. Les jeunes écuyers nobles présentent aux invités les breuvages d'avant-repas, les vins aux aromates, les dragées épicées et les amandes émondées sur des coupes de vermeil. Ils sont attentifs à ne faire ni bruit ni faute en leur service. Ils ouvrent tout grand leurs yeux. Ils se préparent des souvenirs. Ils diront plus tard « J'étais ce jour-là chez Monseigneur Robert. Il y avait le comte de Bouville qui avait été chambellan du roi Philippe le Bel. » Robert parle posément, sérieusement. Une certaine dame de Divion, qu'il ne connaît que peu, s'est venue proposer pour lui remettre une lettre qu'elle tient avec d'autres de l'évêque Thierry d'Hirson, dont elle était la douce amie. Confie-t-il en baissant un peu la voix. La Divion demande argent, naturellement. Ces femmes-là sont toutes de même sorte. Mais le document semble d'importance. Toutefois, avant de l'acquérir, Robert veut s'assurer qu'on ne le gruge pas, que cette lettre est bonne, qu'elle peut servir comme pièce à son procès, et que ce n'est pas là quelque œuvre de faussaire fabriquée seulement pour lui soutirer monnaie. C'est pourquoi il a convié ses amis, qui sont d'avis sages et plus habiles que lui en matière d'écrit, à examiner la pièce. De temps en temps, Robert lance un coup d'œil à sa femme pour s'assurer de l'effet produit. Jeanne incline la tête, imperceptiblement. Elle admire la grosse malice de son époux et comme ce géant retors joue bien les naïfs quand il veut tromper. Il fait l'inquiet, le soupçonneux. Les autres ne vont pas manquer d'approuver si bonne lettre. Ayant approuvé, ils ne se dédieront plus de leur opinion et à travers les milieux de la cour et du parlement, se répandra la nouvelle que Robert tient en main la preuve de son droit.
« Faites entrer cette dame Divion !» dit Robert avec un air sévère.
Jeanne de Divion apparaît, bien provinciale, bien modeste. De la guimpe de lin sort son visage triangulaire aux yeux cernés d'ombre. Elle n'a pas besoin de contrefaire l'intimider. Elle l'est. Elle sort d'une grande bourse d'étoffe un parchemin roulé d'où pendent plusieurs sceaux et le remet à Robert qui le déploie. Le considère un moment, puis le passe au notaire.
Examinez les sceaux, maître Tesson.
Le notaire vérifie l'attache des lacets de soie, incline sur le vélin son énorme bonnet noir et son profil en croissant de lune.
C'est bien le sceau du feu comte votre grand-père, monseigneur, dit-il d'un ton convaincu. Voyez, mes bons sires, dit Robert.
On se transmet le document de main en main. Le sire de Brécy confirme que les sceaux des bailliages d'Arras et de Béthune sont excellents. Le comte de Bouville approche la pièce de ses yeux fatigués. Il ne distingue que la tache verte au bas de la lettre. Il palpe la cire, douce sous le doigt, et les larmes s'échappent de ses paupières. « Ah !» murmure-t-il, « le sceau de cire verte de mon bon maître Philippe le Bel !» Et il y a un moment de grand attendrissement, un instant de silence où l'on respecte les longs souvenirs de ce vieux serviteur de la couronne. La Divion, qui se tient en retrait contre un mur, échange un regard discret avec la comtesse de Beaumont. « À présent, lisez-nous cela, maître Tesson, » commande Robert. Et le notaire, ayant repris le parchemin, commence. « Nous, Robert de France, père et comte d'Artois, » les formules initiales ont la tournure habituelle, l'assistance écoute avec calme. « Et si déclarons en présence des seigneurs de Saint-Venant, de Saint-Paul, de Waipayel, chevaliers qui scelleront de leur sceau, et de maître Thierry d'Hirson, mon clerc ?» Quelques regards se sont portés vers la Division qui baisse le nez. « Habile, habile d'avoir mentionné l'évêque Thierry, » pense Robert. « Cela authentifie les témoignages sur son rôle. Tout cela s'enchaîne bien. » Que lors du mariage de notre fils Philippe, nous lui avons fait investiture de notre comté, nous en réservant la jouissance notre vie durant, et que notre fille Mao y a consenti et qu'elle a renoncé à la dite comté. Ah! Mais c'est chose capitale, cela! S'écrie Robert. C'est plus que je n'attendais! Jamais nul ne m'avait dit que Mao eût consenti! Vous voyez, mes amis, quelle est sa vilainie! Continuez, maître Tesson.
Les assistants sont fort impressionnés. On hoche la tête, on se regarde. Oui, la pièce est d'importance.
Et à présent que Dieu a rappelé à lui notre cher et bien-aimé fils, le comte Philippe, demandons à notre seigneur le roi, s'il nous vient qu'à la guerre Dieu fasse sa volonté de nous, que notre seigneur le roi veille à ce que les oires de notre fils n'en soient pas déshéritées.
Les têtes continuent d'approuver avec dignité. Le chevalier de Hengest, qui est du Parlement, écarte les mains en direction de Robert d'un geste qui signifie « Monseigneur, votre procès est gagné. » Le notaire achève.
« Et avons ceci scellé de notre sceau en notre hôtel d'Arras le 28e jour de juin de l'an de grâce 1322. »
Robert ne put réprimer un sursaut. La comtesse de Beaumont pâlit. La Division, contre son mur, se sent mourir. Ils ne sont pas les seuls à avoir entendu 1322. Dans l'auditoire, les têtes se sont tournées avec surprise vers le notaire qui, lui-même, donne quelques signes d'affolement.
« Vous avez lu 1322 ?» demande le chevalier de Hengest. « C'était 1302 que vous voulez dire, l'année de la mort du comte Robert. »
Maître Tesson voudrait bien pouvoir s'accuser d'un lapsus, mais le texte est là, sous ses yeux, portant clairement 1322. Et l'on va demander à revoir la pièce. Comment cela a-t-il pu se produire? Oh, Monseigneur Robert va être d'une humeur. Et lui-même, Tesson, dans quelle affaire s'est-il laissé engager? Au Châtelet. C'est au Châtelet que tout cela va finir. Il fait ce qu'il peut pour réparer le désastre. Il bredouille.
Il y a un vice d'écriture. Mais oui, bien sûr, c'est 1302 qu'il faut lire.
Et prestement, il trempe sa plume dans l'encre, rature, biffe quelques lettres, rétablit la date correcte.
« Est-ce bien à vous de corriger ainsi ?» lui dit le chevalier de Hengest d'un ton un peu choqué. « Mais oui, messire !» dit le notaire. « Il y a deux points marqués sous le mot, et c'est l'habitude des notaires de corriger les mots mal écrits sous lesquels des points sont mis. »«
Cela est vrai !» confirme l'archidiacre d'Avranches. Mais l'incident a détruit toute la belle impression produite par la lecture. Robert appelle un écuyer, lui commande à l'oreille de faire hâter le repas et puis s'efforce de ranimer la conversation.
En somme, maître Tesson, pour vous, la lettre est bonne.
Certes, monseigneur, certes, s'empresse de répondre Tesson.
Et pour vous aussi, messire l'archidiacre.
Je la pense bonne.
Peut-être, dit le sire de Brécy d'une voix amicale, devriez-vous la faire comparer avec d'autres lettres du feu comte d'Artois de la même année.
Et le moyen, mon bon, répond Robert, le moyen de comparer quand ma tante Mao tient tout en ses registres. Je crois la pièce bonne. On n'invente pas pareille chose. Moi-même, je n'en savais pas tant, et particulièrement que Mao eût renoncé.
À ce moment, une sonnerie de trompe résonne dans la cour. Robert frappe dans ses mains.
On corne l'eau, messeigneurs. Passons à nous laver les doigts et allons dîner.
Il écumait en arpentant la chambre de la comtesse, son épouse, et le plancher tremblait sous son pas.
« Et vous l'avez lu, et Tesson l'a lu, et la Divion l'a lu. Et personne, personne de vous n'a été capable de voir ce malheureux 22 qui risque de faire crouler tout notre édifice. »«
Mais vous-même, mon ami, » répond calmement Jeanne de Beaumont, « vous avez lu et relu cette lettre, et vous en étiez fort satisfait, il me semble. »«
Eh oui, je l'ai lu, et moi non plus je n'ai pas vu ce vice. Lire des yeux et lire de voix, ce n'est pas la même chose. Et pouvais-je penser qu'on allait commettre pareille sottise ?»
Il a fallu que cet âne de notaire et l'autre âne qui a écrit la lettre, comment s'appelle-t-il celui-là ?
Rossignol ! Cela se prétend capable de rédiger une pièce, cela vous extrait plus d'argent qu'il n'en faut pour bâtir, et ce n'est même pas capable de tracer la bonne date. Je vais le faire saisir, ce Rossignol, pour qu'on le fouette jusqu'au sang.
Il vous faudra le faire prendre à Saint-Jacques, mon ami, où il est en pèlerinage avec vos deniers.
À son retour, alors !
Ne craignez-vous pas qu'il parle un peu trop haut pendant qu'on le fouettera ?
Robert haussa les épaules.
Heureuse encore que la chose se soit passée ici et non en lecture devant le Parlement. Il vous faudra veiller davantage, mamie, pour les autres pièces, à ce que de telles erreurs ne se commettent plus.
Madame de Beaumont trouvait injuste que la colère de son époux se tournât contre elle. Elle déplorait l'erreur tout autant que lui, s'en attristait également, mais après tout le mal qu'elle s'était donné, après s'être écorché les mains à couper la cire de tant de sceaux, elle estimait que Robert eût pu se contenir et ne pas la traiter en coupable.
Après tout, Robert, pourquoi vous acharnez-vous tant à ce procès ? Pourquoi risquez-vous et me faites risquer, ainsi qu'à tant de personnes de votre entourage, d'être un jour convaincu de mensonges et de faux ?
Ce ne sont pas des mensonges ! Ce ne sont pas des faux ! Hurla Robert. C'est le vrai que je veux faire éclater aux yeux de tous, alors qu'on s'est obstiné à le cacher.
Soit, c'est le vrai, dit-elle. Mais un vrai, avouez-le, qui a mauvaise apparence.
Craignez sous de tels habits qu'on ne le reconnaisse pas.
Vous avez tout, mon ami. Vous êtes père du royaume, frère du roi par moi qui suis sa sœur, et tout puissant en son conseil. Vos revenus sont larges, et ce que je vous ai apporté par dot et héritage fait votre fortune enviable par tous. Que ne laissez-vous l'Artois ? Ne pensez-vous pas que nous avons assez joué à un jeu qui peut nous coûter fort cher ?
Mamie, vous raisonnez bien mal et je m'étonne de vous entendre, vous, si sage d'ordinaire, parler de la sorte. Je suis premier baron de France, mais un baron sans terre. Mon petit comté de Beaumont, qui ne m'a été donné qu'en compensation, est domaine de la couronne. Je ne l'exploite pas, on m'en sert les revenus. On m'a élevé à la pairie, vous venez de le dire vous-même, parce que le roi est votre frère. Or Dieu puisse nous le garder longtemps, mais un roi n'est pas éternel. Nous en avons vu suffisamment passer. Que Philippe vienne à mourir, est-ce moi qui aurai la régence ? Que sa mâle boiteuse d'épouse, qui me hait et qui vous hait, s'appuie sur la Bourgogne pour régenter, serais-je aussi puissant et le trésor me paiera-t-il toujours mes revenus ? Je n'ai point d'administration, je n'ai point de justice, je n'ai pas vraiment de grands vassaux, je ne peux point tirer de ma terre des hommes à moi qui me doivent toute obéissance et que je puisse placer aux emplois. Qui nantit-on des charges aujourd'hui ? Des gens venus de Valois, d'Anjou, du Maine, des apanages et fiefs du bon Charles, votre père. Où puisais-je mes propres serviteurs ? Parmi ceux-là, je vous le répète, je n'ai rien. Je ne puis lever de bannières assez nombreuses qui fassent trembler devant moi. La puissance vraie ne se compte qu'au nombre de châtelny qu'on commande et dont on peut tirer des hommes de guerre. Ma fortune ne repose que sur moi, sur mes bras, sur la place que j'occupe au conseil. Mon crédit n'est fondé que sur la faveur, et la faveur ne tient que ce que Dieu le veut. Nous avons des fils. Eh bien, pensez à eux, mamie. Et comme il n'est pas bien sûr qu'ils aient hérité ma cervelle, je voudrais bien leur laisser la couronne d'Artois, qui est leur dot par juste héritage. »
Il n'en avait jamais dit aussi long sur ses pensées profondes, et la comtesse de Beaumont, oubliant ses griefs du moment précédent, voyait son mari lui apparaître sous un jour nouveau, non plus seulement comme le colosse rusé dont les intrigues l'amusaient, le mauvais sujet capable de toutes les coquineries, le trousseur de toute fille, qu'elle fût noble, bourgeoise ou servante, mais comme un vrai grand seigneur, raisonnant les lois de sa condition. Charles de Valois, lorsqu'autrefois il courait après un royaume ou une couronne d'empereur et cherchait pour ses filles des alliances souveraines, justifiait ses actes par de semblables soucis. À ce moment, un écuyer frappa à la porte. La dame de Divion demandait à parler au comte, de toute urgence.
« Que me veut-elle encore, celle-là ? Elle ne craint donc pas que je l'écrase ? Faites-la venir !»
La Divion apparut, hagarde, porteuse d'une très mauvaise nouvelle. Ses deux mesquines en Artois, Marie la Blanche et Marie la Noire, celle qui l'avait aidé à acheter plusieurs des sceaux de la fausse lettre, se trouvait en prison, appréhendée par les sergents de la comtesse Mao.